La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
Écoute, Félix, on va suivre ça aujourd'hui. Hein. Ça vient tout juste de tomber, une nouvelle de dernière heure. La condamnation d'Harvey Weinstein pour viol a été annulée. Alors, je ne connais pas tous les détails de cette affaire-là. Est-ce que tu en sais un peu plus, Richard?
En fait, je peux faire autrement que te dire ce que l'agence France Presse là, vient de publier. Ça vient tout juste d'entrer dans la décision. Ce que les juges évoquent, c'est des erreurs dans la manière dont le procès avait été mené, notamment l'admission du témoignage de plusieurs femmes qui ne faisaient pas partie des charges retenues contre lui. Ordonnance annulée, nouveau procès ordonné. On n'annule pas juste sa... sa condamnation pour vol et on s'en arrête... pour viol, plutôt, et on s'arrête là. Il va subir un nouveau procès.
Un nouveau procès. C'est...
Exactement.
Écoute,
c'est comme
okay.
ça qu'il faut le voir pour l'instant, mais on n'a pas d'autres détails.
Ben justement, ce qui nous amène à notre deuxième sujet, en parlant de délai judiciaire, là, ça fait la page couverture du Journal de Montréal. 7 ans plus tard, un chauffeur qui étire encore les délais.
Hey, écoute, c'est une histoire horrible de délai judiciaire. Pendant 7 ans, une famille dont 2 des membres ont été tués dans une collision en 2016 sous les yeux de leur adolescente sur la route 116 en Montérégie attendent que le chauffeur qui a été accusé d'avoir tué ce couple de parents en conduisant ivre avec son cellulaire dans les mains, une caisse de bière à côté de lui, obtienne un procès, obtienne aussi un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Alors, il y a eu dans ça, et ça saute aux yeux, les inéquités dont sont victimes les familles qui attendent ce procès-là. Donc, l'histoire, c'est qu'en novembre 2016, Émilie Fortin puis son conjoint Pierre Brousseau revenaient d'un rendez-vous chez le Podiatre avec leur fille. Ils étaient dans une petite Mazda 3. On était sur la route 116, près de Saint-Marie-Madeleine. Et puis, à une intersection, il a fait son arrêt, M. Brousseau, le conducteur. Il a regardé des deux côtés. Il s'est engagé, mais il y a une voiture qui arrivait dans l'autre sens à tombeau ouvert et c'était celui et celle plutôt du suspect. Comme je t'ai dit, là, il y avait une bière entamée dans le porte-gobelet, il y avait une caisse de bière à côté. Le couple est décédé sur le coup. Leur fille, Anakim Brousseau, 13 ans, a survécu. Elle avait d'ailleurs donné une entrevue au Journal de Montréal faisant preuve d'une force incroyable. Alors, Leblanc avait été accusé maintenant, entrons dans le vif du sujet. Leblanc a été accusé une première fois de conduite avec des facultés affaiblies causant la mort et des lésions. Lors d'un premier procès en 2019, la jeune fille d'ailleurs, qui était là dans l'auto, évidemment, a témoigné, mais le chauffeur a été acquitté.
Veux-tu me dire pourquoi il a été acquitté? Écoute, la limite permise par la loi d'alcool dans le sang, c'est de 80 milligrammes. Il y en avait 115 milligrammes. Non. Et comment ça se fait qu'il
a été... On peut se poser des questions sur ce que le juge... on peut se poser des questions sur ce que le juge a fait en première instance, parce que la cour d'appel a fait casser ce verdict-là puis a leur donné un second procès en août 2021. Là, donc, notre ami Leblanc, âgé de 41 ans, a plaidé coupable l'an dernier aux accusations de 2021. Donc, pour la famille, il admet sa culpabilité, il avait dit c'est un soulagement, un poids qui tombe de nos épaules, etc., etc. Sauf que là, à la dernière minute, ce qu'on comprend, c'est que la procureure de la couronne a lu au juge un courriel qui a été écrit par l'avocat d'accusé pour sensibiliser au délai. Parce que là, l'accusé, ce qu'il dit, c'est qu'il veut annuler son plaidoyer de culpabilité. Puis il veut enregistrer un autre plaidoyer à la place.
Ben non, mais là, c'est du niaisage. Ça fait 7 ans que ça dure, Christine.
Parce qu'il va falloir que, en tout cas, je l'ai vu dans d'autres cas, mais c'est assez rare, tu sais, qu'on accepte un changement de plaidoyer. Il faut que l'accusé, dans ça, va devoir prouver qu'il était... son consentement était vicié ou, en fait, il n'était pas en mesure de plaider de manière libre là, et sans aucune influence la culpabilité. Alors là, il veut inverser ça. Écoute, franchement, là, Franchement, pauvre
vraiment,
famille,
pauvre là, famille. 7 ans, là, il se moque de la justice. Et moi, j'aimerais avoir là, davantage de détails pour savoir comment ça se fait. Le juge de la première instance l'avait acquitté, alors que visiblement, le gars, dit, il y avait un taux d'alcool dans le sang qui n'est absolument pas permis, qui dépassait de très loin la limite permise. Ben oui. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Écoute, tu veux me parler, en France, on sait qu'ils ont des gros problèmes d'incivilité, de délinquance, et des crimes très graves commis par des gens de plus en plus jeunes. Et là, il y a un maire en France qui arrive avec une idée assez particulière.
Ah oui, c'est une idée qui est mise en application. Puis dans cette chronique, Richard, si tu veux bien, on va rentrer dans le vaste monde des couvre-feux pour prévenir la délinquance juvénile. Alors, je te parle de ce que fait le maire de Béziers, qui a instauré un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Ça, c'est dans le sud de la France. Hein. Béziers, c'est un ancien procureur, un proche de Marine Le Pen, Robert Ménard, puis il a signé un arrêté dans sa ville qui stipule, que je te le cite, là, tout mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra, sans être accompagné d'une personne majeure, circuler de 23h à 6h sur la voie publique dans 3 quartiers prioritaires, le centre historique et 2 quartiers pauvres. En 2014, il y a eu un arrêté similaire pris par Robert Ménard encore, mais le Conseil d'État avait annulé son arrêté. Puis tu vois, regarde ce qui se passe en France, là, à Nice, le maire Étrossi, lui, qui est près du... qui s'est rallié au président Emmanuel Macron, a dit que le maire de Béziers avait raison, puis lui, il voulait renouveler encore un arrêté sur les mineurs de moins de 13 ans qui avait été en vigueur de 2009 à 2020 à Nice. Ça avait suscité beaucoup de débats. D'ailleurs, c'est intéressant, cette affaire-là, parce qu'en France, ça fait vraiment pas la une de tous les journaux, mais ça fait jaser dans tous les journaux, le Monde, le Figaro, dans le Parisien, etc., parce qu'on regarde quels ont été les résultats de ce couvre-feu. Alors, selon ce que BFM TV nous raconte, le maire de Montfaucon, ça c'est dans le Gard, petite communauté de 1500 personnes, en 2022, on l'avait essayé, ça. Couvre-feu pour les mineurs, moins de 18 ans, 23h à 6h, tu peux pas être dans la rue, parce que les jeunes, selon les prétentions de la mairie, s'amusaient à tronçonner les arbres que la mairie plantait. Il y avait donc de la délinquance, du vandalisme et tout ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les effets et les résultats ont été immédiats. Immédiats. Ça a fait cesser, là, les actes de vandalisme, là, presque entièrement. Il y a eu d'autres à Cagnes-sur-Mer. Il y a un arrêté qui a été pris pour des trucs semblables. 53 000 habitants à Cagnes-sur-Mer. Le maire de l'endroit, Louis Nègre, vante un résultat très positif. Puis là, ça me faisait... Je t'en parle pourquoi, Richard? C'est parce que c'est drôle que cette idée-là n'a pas refait surface au Québec au cours des dernières années.
Mais Huntington, Huntington, le maire couvre-feu.
Exactement. Mais... alors, à Huntington, ici, pour combattre des actes similaires de vandalisme, graffiti, incivilité, bien du mobilier public, le maire de Huntington, ça fait longtemps, ça fait 20 ans de ça, avait imposé un couvre-feu. Sauf que là, la Commission des droits de la personne du Québec s'en était mêlée et avait estimé que c'était une atteinte aux libertés de circulation et de réunion pacifique. Donc, on avait dû mettre fin à ce couvre-feu-là. Le maire, le 5 juillet 2014, avait renoncé à son projet. Puis là, je regardais un peu dans l'histoire récente. Pas dans l'histoire récente, en fait. Dans l'histoire, point, à Montréal. Est-ce qu'on a déjà essayé d'imposer un couvre-feu? Puis regardons ce qui s'est passé avant, puis regardons si ça pourrait être applicable maintenant. Parce que tu sais que même le président de la Fraternité policier et policière de Montréal l'a évoqué, je pense même à ton micro, assez clairement. Disons que les astres sont alignés pour un été encore assez chaud. Je veux dire, je peux pas passer sous silence qu'il y a des voleurs de voitures qui foncent sur les policiers, de très jeunes voleurs de voitures. Mais je voulais faire rebondir cette idée-là. Est-ce que c'est applicable à Montréal, un couvre-feu? Est-ce que c'est souhaitable, un couvre-feu? Écoute, si on se fie à l'histoire récente, on a tout essayé et à plusieurs reprises au cours du 20e siècle à Montréal pour imposer des couvre-feux. En fait, couvre-feu pour les jeunes dès 1917 dans un projet pour éviter que les jeunes, justement, fassent face à des occasions dangereuses qui guettent la jeunesse, puis courent dans les parcs. Parce qu'on disait que courir dans les parcs en 1917, c'était comme un peu des plaies de l'enfance. En tout cas, bref, la Ville de Montréal et le juge FX Choquette de la Cour des sessions de paix à cette époque-là avait écrit que quant à l'utilité d'un tel règlement, il dit, je n'ai pas le doute qu'il aurait pour effet d'empêcher les enfants de courir le soir dans les rues après 9 heures et d'enfreindre les règlements municipaux et la loi, sauf que un peu plus tard, plusieurs associations ont réussi à combattre ce couvre-feu-là. Et les exemples sont nombreux dans l'histoire de la Ville de Montréal, d'associations de travailleurs, de paroisses qui s'adressent à la Ville, qui n'avaient pas la possibilité de légiférer en tel domaine, mais elle l'a fait en 1935, la Ville. Elle a demandé à l'Assemblée législative provinciale de décréter un couvre-feu dans la métropole. Ça n'a pas fonctionné, puis on s'est réessayé ensuite, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, je serais bien surpris que si quelqu'un a cette idée saugrenue, me diras-tu, ou utile peut-être, aurait des succès, même à juste la proposer en 2020.
En tout cas, Stéphane Gendron, maire d'Huntington, avait eu une émission de radio après ça, qui s'intitulait Le couvre-feu, justement. Oui. Alors, c'est le titre de son émission. Mais il y a une affaire que je ne comprends pas très rapidement en France. Un couvre-feu pour les gens de 13 ans et moins. Or, écoute, les actes de vandalisme sont souvent causés par des gens qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont plus vieux que, tu sais, qu'on dit, mettons, de 18 ans et moins, je comprendrais. Mais de 13 ans et moins, là, on parle d'enfants, là, on ne parle pas d'adolescents. Là. On parle de couvre-feu pour des enfants.
Tu mets le doigt exactement sur ce qui m'a chicoté un peu là-dedans. Oui. Je veux dire, on s'entend que le nombre de délits que tu peux accomplir à 13 ans est moins, et la gravité de l'objectif de ces délits-là est probablement moindre que ce que tu peux accomplir quand tu as 16, 18, que tu commences justement à te tenir avec les mauvais garçons, puis que tu as l'opportunité de commettre des crimes plus graves. Alors, de toute façon, on verra où le maire de Béziers s'en va avec ça, puis s'il rencontre de l'opposition au cours des prochains mois, connaissant la France, je suis assez persuadé qu'il va en rencontrer.
Merci beaucoup, Félix. À demain. Bonne journée.
Merci.
Salut.
OK.
Une autre vision de l'actualité.